L'écran radiophonique vous présente un scénario original de Jean-Pierre Junier. Simara. Mise en scène production Jean-Pierre Junier. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sur cette marque sont la propriété de l'auteur. te fais un compliment et tu me bouscules comme l'autre. » Elle lui prend par le bras. « Allez, viens, on va manger ensemble. » « Tu n'as pas peur qu'on te voie avec moi ?»« Non, et même, j'en suis fière. Je suis la seule. » Elle le mène chez elle pour manger un morceau. Oui, pour manger un morceau. Elle la fait asseoir et lui dit « J'ai préparé un bon pot-au-feu. C'est la vieille Pie qui m'a donné la viande, parce que soi-disant elle était trop dure. J'ai mis des carottes, pommes de terre, tu verras, c'est délicieux. » Puis, plus tard, tout en mangeant « Bon appétit », elle lui dit « C'est bon, hein ?»« Oui, merci. » Elle sourit. Je demande pourquoi tu m'as invité pour que je prenne ta part. Enfin, une part. Elle lui dit, j'aime pas manger seul, surtout lorsque c'est bon. Moi, tu sais, je suis comme ça. Tu ferais si bien de quitter le quartier la journée. Le soir, tu pourrais venir. C'est moi, mais tu risques en restant toujours ici. Tu risques d'avoir des ennuis. Les gens n'aiment pas voir traîner des personnes comme toi. Le soir, tu peux venir chez moi, mais si tu risques à venir ici, tu ne viens pas. Essaye tout de même. Le monde est partout pareil. Elle lui dit. Alors va ailleurs. C'est pour toi que je le dis. Il continue à rester dans le quartier. La pauvreté est de plus en plus grande. Oui, la pauvreté est de plus en plus grande. Le chômage augmente, l'on ferme les entreprises pour ouvrir ailleurs. Les patrons, le gouvernement disent que c'est parce que les salaires sont trop élevés en France. Alors on ouvre dans les pays sous-développés, on ouvre où les ouvriers ne sont pas syndiqués et travaillent pour rien. Le chômeur ne reste pas longtemps chômeur parce que s'il ne trouve pas de travail au bout de 6 mois, il est rayé de la liste des chômeurs. Le gouvernement dit que le chômage diminue, mais ne parle pas que les SDF augmentent. D'un côté, il y a les nantis, les riches, les politiques, et de l'autre, les pauvres, les SDF. Les gens ne peuvent pas se rebeller ni se syndiquer, parce qu'ils sont pris par les prêts, voiture, logement, etc. La peur du chômage et de ne pouvoir payer les force à accepter toutes sortes de conditions de travail. Les banques jouent le jeu des patrons, ils étranglent les gens en leur proposant des prêts de tout et de n'importe quoi. Une personne qui a des difficultés à payer, on leur propose un prêt, etc. On leur dit, c'est peu tous les mois. Mais prêt sur prêt égale grosse somme. Les banques s'enrichissent sur le dos du pauvre par les prêts qu'il leur fait. Plus les gens ont des prêts, plus les banques sont riches. Plus les gens ont des prêts, plus ils ont peur de l'avenir, du chômage, etc. Plus ils ont des prêts, plus ils s'endettent. Beaucoup basculent dans la misère. Jean-François est toujours au marché et en cachette des commerçants, il donne aux personnes qui lui semblent pauvres des légumes et des fruits. Mais les gens le remercient après, à peine.
Voilà, passez une bonne journée.
Un après-midi, Jean-François est assis sur un banc dans un petit square. Il y a quelques enfants qui jouent. S'arrête devant lui un jeune homme dans les 20 ans, grand, mince, cheveux blonds, yeux bleus, visage agréable. Il est habillé d'un jean velours marine, d'une veste en toile grise, chemise blanche. Les mains dans les poches. Il demande à Jean-François, « Ça va, vieux ?» Jean-François le regarde surpris. Il se dit encore un con. Le jeune lui dit, « Tout baigne pour toi ?» Jean-François lui dit, « Ça va. » L'autre lui dit, « Moi aussi, je suis comme toi. » Il s'assoit à la droite de Jean-François. Le jeune lui dit, « Je m'appelle Guillaume. Et toi, Jean-François ?» Le jeune lui demande, « Et qu'est-ce que tu fais, Jean-François ?»«
Rien, je me repose. »
Ah, ça, tu en as de la chance. Libre comme l'air. Moi aussi, je suis libre. J'ai quitté mes vieux, des vieux salauds. Tu ne crois pas ?
Jean-François lui dit, si, je te crois.
Le jeune dit, de vieux salauds, fascistes, riches à millions. Mais moi, j'en pouvais plus d'être avec eux. J'ai tout fait de toute leur force. Ça me dégoûtait. Mon père me donnait tout ce que je voulais. Pour ma mère, j'étais son petit canard. Tu vois les choses ?
Jean-François lui dit, et tu es parti pour lâcher tout ça ?
Oui, j'ai tout fait. J'en avais assez de vivre cette vie-là. Et de voir tout ça. Et puis je déteste le monde où vivent mes parents. Je déteste leur idée, façon de voir. Moi, je suis près du peuple. Alors j'aurais dit ma haine. Ma mère, avant de partir, m'a donné une somme. Pourtant, je suis comme toi. Je vais vivre avec les pauvres. J'ai des idées anarchistes. Je veux détruire la société. La société que je déteste. Je déteste les capitalistes. Leur fric. Jean-François le laisse débiter sa haine contre les siens. Il se dit qu'il a les moyens d'être anarchiste. Vu ce qu'il a, c'est un pauvre con. Il a les poches bourrées de billets que sa mère lui a mises. Et il se dit pauvre, il joue les pauvres. Il va rencontrer des jeunes comme lui qui veulent lui faucher son fric. Lorsqu'il n'en aura plus, il retournera chez papa et maman. Oui, les jeunes qui vont lui faucher son fric. Il peut bien détester son milieu.
mais sans son milieu, il n'y a rien. Jean-François sourit et lui dit, « Tu as bien fait quitter tes parents et de te trouver seul. Tu es libre au milieu des pauvres. » Le jeune lui dit, « Oui, je suis avec toi, comme toi. » Jean-François se lève, le jeune aussi, et se met à marcher. Jean-François sort de sa poche un sachet qu'il a trouvé dans une allée. Le lui donne. Tiens. Merci, c'est quoi?
Fume. Fais-toi une pipe.
Il s'arrête de marcher. Le jeune se prépare une cigarette et fume.
Le jeune tousse. Il n'aime pas ça. Puis il aime.
Jean-François lui dit, « T'es sauvé, mon vieux. » Et il le quitte en riant et se dit, « Il a voulu ce qu'il voulait. Ses souhaits avaient été exaucés, ont été exaucés. Pauvre con !» Les jours passent. La nuit, une femme entre dans son allée. C'est une vieille allée, mal éclairée, sale. La femme est grande, mince, blonde, manteau rouge. Elle regarde sa boîte aux lettres. Et va vers les escaliers. Lorsque elle a entendu un bruit derrière les escaliers, elle sursaute. Y a quelqu'un? Pas de réponse. Commence à monter les escaliers. Tout à coup, elle est prise par les mollets et tirée en arrière d'une façon forte. Elle tombe et glisse les escaliers. Elle veut se maintenir mais ne peut pas. L'homme la tient très fortement. Elle aimerait sortir de cette emprise. Elle le peut. Elle crie « Au secours! Au secours !» Essaye de s'agripper aux marches mais ne peut. L'homme la pousse derrière les escaliers, se plaque contre elle. Elle cesse de se débattre, mais ne veut pas. Il est trop fort pour elle. Et d'un geste, il lui donne un coup de couteau dans le dos. La femme est morte sur le coup. L'homme se relève. Sort de derrière les escaliers. Le lendemain, le corps sera retrouvé par un locataire. Il y a des tas de crimes comme ça dans les allées. Des femmes évitent de sortir seules. La police ne voit pas qui pourrait faire ça. Et pourquoi? il n'y a ni vol ni viol. C'est simplement gratuit. Mais les gens ont leurs idées. Oui, les gens ont leurs idées. Celui qui traîne toujours dans les rues, dont ne sait rien. Ce jeune homme bizarre, avec son regard étrange. Ce doit être lui. Les gens qui le croisent le regardent d'un mauvais œil. Les femmes changent de trottoir. Seuls les enfants le regardent avec le sourire et lui crient « C'est l'assassin ! C'est l'assassin !» En riant, sans avoir peur, Jean-François rit de tout ça et se dit « Ceux qui ont peur sont des imbéciles. Moi, je ferai plus. Oui, c'est moi. Qu'importe que ce soit moi ou un autre. Ce qui compte, c'est que ce soit fait. Ceux qui sont outrés pour ça, bientôt en demanderont plus. » Laissons dire. Il faut bien que les gens s'occupent. Et il continue son chemin. Il n'a pas encore envie de changer de coin. Et puis pour aller où? D'ailleurs, de partout, c'est la même chose. Les jours passent. Jean-François couche sur les ponts, dans les caves. Il y fait humide, ça sent mauvais, et l'on risque de se faire mordre par les rats. Il y a aussi les SDF qui peuvent être violents à cause de l'alcool ou pour protéger leur territoire. Les SDF entre eux ne se font pas de cadeaux. C'est du chacun pour soi. Ils ont leur territoire, leur poubelle. Et il ne faut pas chercher à prendre ce qui est à eux. Lui, Jean-François, n'a pas de territoire. Il est toujours obligé de se cacher. De se cacher des SDF qui se cachent des gens. Une nuit, il s'est mis dans un renfoncement d'un pont pour dormir. Il est assis à terre, les jambes écartées. Bien près de lui, un jeune homme dans les 20 ans, grand, maigre, blond, visage osseux, qui ne manque pas de charme, habillé d'un manteau noir. Jean-François, lorsqu'il le voit, il se lève. Il ne veut pas d'ennui. Le coin doit être à lui. Le jeune lui dit « Tu peux rester ici, passer la nuit ?» Jean-François se rassoit, lui dit « Oui, c'est vrai, c'est à tout le monde. » Le jeune s'assoit près de Jean-François. Le jeune homme lui dit « J'ai débarqué à Paris ce matin. Je ne sais pas où aller. Je traîne. Je croyais que c'était simple de trouver du travail, mais... c'est tout aussi difficile là qu'ailleurs. Je viens de Lyon. Et toi ? » Je lui dis, de nulle part. J'ai pas de famille. Je lui dis, je crois pas. Tu viens bien de quelque part ? Je lui dis, sûrement, mais j'ai oublié. Le homme lui demande, pas de famille ? Non, je crois pas. Tu as passé ton enfance où ? Jean-François lui dit, dans une maison, loin. Puis je suis parti. Il y a de ça longtemps. Tu ne travailles pas ? Jean-François lui dit. Non, pourquoi faire ? Et puis, je me sens soulevé pour aller de l'avant, pour aller aider les autres à ma façon. Le jeune rit et lui dit. Aide-moi ! Jean-François lui dit. Tu n'as pas besoin. Tu es bien comme tu es. L'autre rit. Puis se sont tus. Et endormi. Lorsqu'il se réveille, Il fait grand jour. Et Jean-François ne voit plus à côté de lui le jeune homme. Gare de Lyon. La gare est pleine de monde. Pas que des gens qui prennent le train, mais des personnes qui traînent dans la gare. SDF, voleurs, vendeurs sous le manteau. Les SDF restent dans la gare parce qu'il y a des bancs pour s'asseoir et que l'on peut faire la manche. Georges, en manteau noir et valise de cuir noir, se faufile dans cette foule. Il va prendre son train pour Rome. Compose son ticket et va sur le quai. Il y a déjà du monde qui vont prendre le train. Beaucoup de familles et qui ont amené leurs baluchons et valises. Enfin, le train arrive. Il y entre. Il trouve sa place près de la fenêtre, en hauteur. Le wagon se remplit. Dans les premières classes, il y a déjà beaucoup de monde. D'hommes en costume gris, habillés, avec, ils ont un attache-caisse, ordinateur, chacun se met à sa place. Se met à côté de lui un homme grand, mince, maigre, cheveux gris, lunettes métal, costume gris.
Bonjour, la SNCF et son personnel d'accompagnement sont heureux de vous accueillir à bord de ce TGV à destination de Paris-Gare de Lyon. Lors de vos déplacements dans celui-ci, veuillez vous munir de vos titres de transport compostés et de vos cartes de réduction. Nous vous rappelons que tous les TGV sont des espaces non-fumeurs et que vos bagages doivent comporter une étiquette mentionnant vos noms et prénoms. Nous vous souhaitons un agréable voyage.
Et le train s'est mis en route. L'homme dit à Georges, ils se sont trompés, ou le disque qu'ils ont mis, ils se sont trompés en le mettant. C'est pas de Lyon que l'on va à Paris, mais de Paris que l'on va à Lyon. Ce train part à l'heure malgré tout. Nous espérons, c'est qu'il arrivera à l'heure. Plus rien ne marche en France. Il faudra un homme fort pour diriger le pays. Les élections ne vont rien changer. C'est toujours les mêmes. Georges lui dit, c'est tout à fait raison. La République est morte. Elle a donné tout ce qu'elle pouvait. L'homme lui dit, oui, elle a été prise par des marchands financiers. Ils ne pensent qu'à s'enrichir. Il nous faut un homme au-dessus des autres. Mais qui ? Georges lui dit, peut-être celui à qui l'on ne pense pas. L'homme lui dit, je ne vois pas. Un socialiste sont tous les mêmes. C'est le parti des enseignants et des fonctionnaires. Excusez-moi. La gauche caviar. La droite, elle défend que les financiers et les patrons. Non. Ce qu'il nous faut, c'est une personne qui défende tous les Français. Billet, s'il vous plaît. Il voit près d'eux le contrôleur, un gros homme rouge, cheveux gris. Ils montent leurs billets. Contrôleur les contrôle et les quitte. Georges dit à l'homme, moi, j'ai peut-être une idée pour celui qui prendrait le pouvoir au nom de tous les Français. L'homme lui demande, et qui ? Georges lui dit, celui à qui on n'a pas pensé, auquel on ne pense pas. L'homme réfléchit, je ne vois pas. L'envoi lui dit, le roi. L'homme rit, dit, un roi à notre époque, c'est ridicule. Georges lui demande, pourquoi ? L'homme lui dit, parce qu'un roi s'est dépassé. Jamais un Français n'accepterait un roi. Pourquoi pas Napoléon ? Georges lui dit, et si le roi est assez fort pour se faire entendre, et qu'il est roi des Français, de tous les Français, ça marcherait ? Regardez l'Angleterre. L'homme lui dit, l'Angleterre est un vieux pays. Georges lui dit, peut-être, mais il marche mieux que le nôtre. Il est plus stable que nous. Il n'a pas eu de révolution depuis des lustres. Et la royauté rend les institutions fermes. La royauté symbolise le pays. Les régimes passent, mais la royauté reste. Il y a une continuité grâce au roi. La France apporte continuité. Elle change constamment de chef d'État. Les élections sont trop nombreuses, empêchent la stabilité. Il ne peut y avoir une politique au long cours. Les nouveaux gouvernements, la première des choses qu'ils font, c'est de supprimer ce qu'a fait le prédécesseur. On repart toujours à zéro. L'homme lui dit, vous avez raison, mais là, à vouloir un roi, Georges lui dit, cela peut empêcher l'anarchie. Et il continue à parler. L'homme finit par accepter les idées de Georges. Puis, le train arrive à Rome. Ils se séparent. Et ils se séparent. Brun est arrivé à Rome. Georges a pris un taxi. La gauche caviar. Vous voulez aller où ? Au Vatican, s'il vous plaît.
Le chauffeur lui dit. Vous comptez voir le pape ?
Georges Ré lui dit.
Pourquoi pas ? Le chauffeur lui dit. C'est pas facile.
Mais...
Il conduit Georges au Vatican.
Il y a beaucoup de circulation à Rome et les gens roulent n'importe comment. Van Schuffer réussit à arriver à destination.
Il a arrêté son taxi à l'entrée du Vatican. Georges paye et sort du taxi.
Pour avoir un entretien privé avec le pape, ce n'est pas facile. Il faut passer par de nombreux secrétariats, ministères, gardes, etc. Georges est arrivé. Et le pape le reçoit dans son bureau, qui est une grande pièce avec des vitrées qui donne dans un jardin intérieur. Pape est à son bureau, il est grand, fort, cheveux blancs, yeux bleus, tête ronde. Le bureau est meublé de meubles Renaissance. Le pape dit à Georges,
« Venez vous asseoir, monsieur Marshall. »
Georges s'assoit en face du pape. Le pape lui dit,
« J'accepte de vous recevoir. » Parce que vous m'avez été recommandé par une lettre. Mais je ne comprends pas bien ce que vous êtes. Expliquez-moi.
Georges lui dit, je suis membre de la compagnie de G.U. Le pape lui demande,
qu'est-ce que cela ?
Georges lui dit, nous sommes une compagnie qui luttons pour mettre un roi sur le trône de France.
Le pape prie et dit, vous êtes étrange, vous les Français. Vous avez fait des révolutions pour retirer les rois et maintenant vous voulez vous battre pour en mettre un sur le trône. Et quel roi ?
Georges lui dit, nous recherchons les descendants de Jean Ier. Le descendant de Jean Ier. Parce qu'il nous en faudrait qu'un, fils de Louis X et de Clémence de Hongrie. Le pape lui demande,
pourquoi ? Vouloir mettre un roi sur le trône.
Georges lui répond, c'est pour sauver la France. Et il y faut à sa tête un homme, un symbole fort, pour éviter qu'elle s'effondre. Les élections... ne sont pas bonnes. Elles sont juste bonnes pour mettre un mauvais chef d'État. Mais aucun n'est capable et n'ont qu'un but, c'est de s'emparer de nos fortunes. Alors, puisque la République a tout donné, pourquoi pas la royauté ?
Le pape lui demande, mais est-ce que les Français... le souhaite.
Georges lui répond.
La France ne croit plus en rien et est prête à se donner à qui le voudra.
Le pape lui dit,
si elle le souhaite, pourquoi chercher un nouveau prétendant alors qu'il y en a tant ?
Georges lui dit, aucun ne sont bons. Un Bourbon espagnol comme roi de France, non. La branche des comtes de Paris, des incapables qui ont dilapidé leur fortune. Le roi des Belges, impossible. Alors, nous avons pensé aux descendants de Jean Ier, le pape lui dit. Vous ne savez rien de ce descendant. Peut-être qu'il ne sera pas bon, lui non plus, un simple d'esprit, un inculte, que sais-je. Georges lui dit, nous verrons bien. De toute façon, au point où est la France, il faut tout essayer. Le pape lui dit, c'est peut-être une légende, cette histoire. Il est peut-être mort sans laisser de descendants, parce qu'il est mort très jeune, un bébé. Vous voyez, je me suis renseigné. Georges lui dit, non, il a vécu et a pu avoir une descendance. Le pape lui demande, comment pouvez-vous être sûr? Vous avez des preuves? Georges lui dit, d'après les écrits du curateur du dauphin, il a été sauvé, on l'a remplacé par un autre enfant. Et lui, il est parti avec la mère de l'enfant qui est mort. Ils sont partis en Italie. La mère ne savait pas qu'elle avait le dauphin. Le pape lui dit,
c'est vieux tout ça. Comment allez-vous faire pour trouver la descendance?
Georges lui dit, en épluchant les livres de paroisse, des paroisses, pour chercher le nom de la mère. On ne sait jamais. Le pape lui dit,
il peut y avoir plusieurs noms.
Georges lui dit, oui, mais nous avons l'ADN de la famille royale. Le pape lui dit,
ils ont pu changer de nom, étant donné qu'elle était française. Si elle s'est mariée, elle a peut-être été inscrite avec une mauvaise orthographe sur le livre.
Georges lui dit, nous verrons bien. Est-ce que vous avez prouvé cette nouvelle croisade pour sauver la France? Le pape lui dit,
croisade est un bien grand mot. Nous tenons à rester neutres, tout en vous aidant. Nous ne voulons pas troubler les rapports que nous avons avec la France, la République française, qui s'est bien assagie. Ce n'est pas la République qui nous ennuie, mais c'est les prêtres qui, dans ce pays, est gangréné par des idées laïques et anarchiques. Ceci risque peut-être plus de nous créer des ennuis que le pouvoir. S'il continue à s'insurger comme celui-ci, la vraie croisade pour la France, c'est de remettre sur le droit chemin les prêtres pour qu'ils deviennent respectueux des lois et s'occupent plus des hommes que de la vie sociale. Officiellement, je vous permets de faire ces recherches, mais si elles aboutissent, il faudra c'est que ce soit le peuple et seul le peuple qui désire remettre un roi sur la France. Je vais vous faire un papier pour que vous puissiez avoir accès aux archives que vous désirez. Pour que nous échouions, le pape lui dit, je n'y peux rien. Georges lui dit, ce sont les Templiers. Le pape lui dit, ils ont été éliminés.
Georges lui dit, vous savez bien que c'est faux. Ils se sont transformés en compagnons du Tour de France et ont une fortune considérable. Le pape lui dit,
des légendes, tout ça.
Georges lui dit, non, la preuve. Ils ont sur leurs outils gravé dessus la croix du temple. Le pape lui demande,
et pourquoi voudrait-il du mal?
Georges lui dit, parce qu'ils ont maudit les descendants de Philippe le Bel, et que les descendants de Jean Ier sont eux aussi maudits. Ils sont rancuniers. Ils savent que nous avons l'ADN et eux aussi l'ont. Ils vont sûrement vous demander une audience pour que vous les aidiez. Le pape lui dit, ne vous faites pas de soucis. S'ils demandent de l'aide pour tuer ou détruire la vérité, ils n'en auront pas. Et puis, officiellement, ils ne sont rien, puisqu'ils n'existent plus. Georges sort du Vatican avec la lettre du pape qui l'autorise à voir les archives de l'Église. Il va à Padoue pour faire ses recherches dans les églises, vieux grimoire, papier déchiré, etc. Les jours passent. Un jour, dans une église, on lui dit qu'il y a déjà une personne qui fait les recherches en ce moment. Il va voir, voit un homme, grand, maigre, cheveux noirs, un peu long, visage osseux qui ressemble à un aigle, manteau noir. Georges reconnaît, c'est Grégoire Folux. Et Folux le voit, lui dit, vous ? Oui, c'est moi. Il sourit. Et Folux déchire une page d'un livre. Et se met à courir. Georges le poursuit. Après, dans des dédales de rue, Georges le rattrape et se bat. Mais l'autre se dégage. Il entre dans une allée. Georges aussi. Il se bat dans l'allée. Grégory réussit à l'attraper. Georges est furieux. Il se dit qu'il a peut-être une piste.
Tu m'as obtupé, Will !
Mais si c'était fait, si c'était faux, et qu'il lui fait croire qu'il a trouvé pour qu'il puisse arrêter ses recherches. Alors il décide de retourner aux archives. Et là, il veut voir. Oui, il veut voir. Il cherche, ne trouve rien. Mais il n'y avait peut-être rien. Il décide de continuer. Le temps passe, continue ses recherches, de plus en plus découragé. Parce qu'il croit que si les Templiers le surveillent, ne le surveillent pas, plutôt, si les Templiers ne le surveillent pas, c'est qu'ils ont trouvé. Mais dans les rues, il ne voit pas qu'il est surveillé.
continue ses recherches. Mais il y a tellement de noms, et de noms qui sont presque semblables et qui se ressemblent. C'est pas facile. Et il continue toujours ses recherches dans les églises, les bibliothèques, malgré qu'il soit démoralisé. À Paris, Jean-François traîne dans les rues et fait la manche, mais il est rejeté par tous. On le fait sortir des cafés. On le traite comme un rien. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Si Mara, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.